Le titre de mon message ce matin, à qui confierais-tu ta vie? À qui confierais-tu ta vie? Ma femme et moi, bon, comme je vous ai dit, on a 4 enfants. Et lorsque ma femme est enceinte de notre 3e fille, parce que les 3 premières étaient des filles, mon 4e, c'est un garçon, il s'appelle Jordan, je veux qu'il soit comme Michael Jordan, bref, parenthèse. Mais quand elle était enceinte de notre 3e fille, on a vécu un moment un peu troublant et stressant. Parce que, bon, on a fait les suivis, ultrasound, les échographies, tout ça, comme tout le monde. Mais lorsque la technicienne a fait l'échographie, son visage a changé. Et pour tous ceux, moi, j'ai déjà travaillé dans l'imagerie médicale, OK? Je le sais quand un technicien essaie de dissimuler quelque chose. Donc, je voyais, oh, OK, puis là, moi et ma femme, on commençait à s'imaginer différents scénarios, qu'est-ce qui se passe. La technicienne va voir le médecin arrive, et lui aussi, son visage est différent. Donc, je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Il dit, monsieur, madame, on aimerait ça vous dire qu'il y a un problème avec votre enfant, il y a un retard de croissance, on n'est pas sûr de savoir c'est quoi. Donc là, on est comme, ouf, OK. À ce moment-là, ma femme se met à pleurer. Moi, je commence à être inquiet. Je commence à poser des questions. J'essaie de saisir, OK, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Et nous dire, écoutez, allez voir la spécialiste. Voici la prescription, la requête d'examen. Allez voir la spécialiste. On va voir la spécialiste. 3-4 minutes à l'intérieur, OK, du bureau et tout ça. La spécialiste nous voit, bonjour, ouais, on va faire le test, ça, regarde. Ah, tout est beau, retournez chez vous, votre enfant est parfait de santé, excellent. Là, nous, on est comme, OK. Ma femme se met à pleurer, OK. Et ma femme, à chaque fois que je prêche, elle dit, tu dis tout le temps que je pleure. Moi aussi, j'ai pleuré, OK. T'as vu, chérie? Moi aussi, j'ai pleuré, OK. Et à ce moment-là, moi, j'avais comme une paix intérieure. Je me suis dit, je pense qu'il va bien. Mais vous savez, des fois, on peut se tromper. On a tous des intuitions intérieures, on a des convictions intérieures. Finalement, faut valider tout ça. Donc là, il dit, allez revoir votre médecin, dites que tout est correct, dis-lui qu'il faut juste déplacer la courbe. Je suis comme, je vais rien lui dire. Moi, j'ai pas des années de médecine. Donc, je vais voir mon médecin et le médecin regarde les photos et tout ça, il fait l'imagerie et il dit, ah, moi je suis pas d'accord avec la spécialiste. Wow! Et une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand j'étais avec la spécialiste, elle nous a dit, c'était qui le médecin? Là, on a donné le nom. Elle a dit, oh oui, lui. Oh oui, mon stagiaire. Et là, on arrive, il dit, je suis pas d'accord. Je suis comme, mais réglez vos chicanes. OK? Là, il y a la vie d'un enfant qui est en jeu. Et finalement, on a fait des tests à répétition. Mon enfant allait super bien. Le médecin, il venait plus nous voir tellement que c'était correct. On était contents. On dit, OK, Seigneur, c'était pas juste un sentiment intérieur. Je sais que mon enfant va mieux. Et voici ce que ça nous a rappelé, à moi et ma femme. C'est que la vie de notre enfant n'était jamais dans les mains du médecin, mais était dans la main de Dieu. À chaque instant. Malgré les années d'études du médecin, malgré son expertise, malgré ce qu'il sait, la vie humaine, il y a juste Dieu qui en est le maître. Okay? Et nous, ça nous a rappelé ça. Et nous, on s'est dit, OK, c'était quelque chose de particulier quand même avec cet enfant-là. Et on a décidé d'appeler notre fille Zoé. OK? Zoé, en grec, c'est la vie en abondance. Quand Jésus dit, il est venu donner la vie, c'est le mot Zoé qui est là. Et vous allez voir une photo de Zoé qui apparaît à l'écran. OK? A pas l'air de rien manquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est pleine de vie, espiègle, plein de choses. OK? Zoé, quand il y a une famille dernièrement qu'on a invitée à la maison, et le papa de la famille s'appelle Marc-Étienne. Et Marc-Étienne, bon, il a des enfants qui s'appellent Loralie, Jade et Mathis. Et le dimanche matin, on les invite en après-midi à la maison. Et Marc-Étienne va voir Zoé. Zoé, elle a 4 ans maintenant aujourd'hui. Elle dit, Zoé, on va venir chez vous cet après-midi à la maison et tout ça. Et Zoé, elle dit, non, c'est Loralie, Mathis et Jade qui vient à la maison. Et Marc-Étienne, une bonté incarnée, super gentille. Il dit, non, non, mais il devient gêné. Il dit, ah, non, non, mais Zoé, moi, je suis le papa de Marc-Étienne. J'ai dit non! Mais c'est juste pour vous dire que, elle a même trop de vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas de retard. Elle est remplie de vie. On est tellement bénis de la voir, Zoé. Mais sa vie a toujours été dans les mains de Dieu. Mais vous savez, cette histoire me rappelle que la vie, elle est fragile. OK? Et autant la vie de Zoé était fragile, notre vie est fragile. Et des fois, on n'a pas l'impression que notre vie est fragile. Majeur, vacciné, pas de problème. Et envers notre vie, on adopte la même attitude que le médecin. On veut prendre notre vie en charge. On peut prendre les rênes de notre vie, contrôle de notre vie. Moi, je suis capable de prendre soin de ma vie, mais je suis convaincu qu'un moment ou un autre dans ta vie, tu vas vivre un moment de vulnérabilité. Ça arrive à tout le monde. Et si ça t'est pas encore arrivé parce que t'es pas assez vieux pour l'avoir vécu, ça va t'arriver. Il y a un moment où tu vas avoir besoin d'aide, tu vas te sentir dépassé, tu vas te sentir abattu et tu vas réaliser que ta vie n'est pas sous ton contrôle. Et j'aimerais te poser cette question à ce moment-ci. À qui confierais-tu ta vie? OK, on confie notre voiture au mécano. On confie nos cheveux au coiffeur ou comme dans mon cas, au Seigneur. On confie notre argent à la banque. On confie nos enfants au babysitter. On confie notre maison à notre famille. Mais à qui confierais-tu ta vie? Moi, mon conseil, c'est confie-le à Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul est un apôtre, implantation d'église, supervision d'église. Et à un moment, l'apôtre Paul devait quitter une église. Et tu sais, l'apôtre Paul, c'est un homme extraordinaire. Il a écrit la majorité du Nouveau Testament. Et là, il doit quitter l'église et il dit aux leaders, « Hey, les leaders, okay? » Il utilise la métaphore du berger. Il dit, « Vous, les leaders, les bergers, prenez soin du troupeau. Okay? » c'est les gens de l'église, les troupeaux, vous êtes des leaders, tout ça, prenez soin du troupeau. Mais à un moment donné, dans sa discussion, dans sa lettre d'adieu, si on peut dire ça comme ça, voici ce qu'il dit, acte 20, 32. Voici ce qu'il dit. Je vais y arriver. On va lire ici. Acte 20, 32. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Et ce que j'aime avec ce verset-là, c'est qu'il dit, quand il dit « je vous confie », il parle des gens dans la salle et des leaders. Parce qu'il dit, même si tu es un berger, même si tu as une responsabilité, même si tu as une charge, même si Dieu t'a confié quelque chose, même toi, tu as besoin d'être confié au grand berger. Donc, j'aimerais te dire, mais peu importe ton niveau de maturité, peu importe ton niveau de charge, peu importe ce que tu as dans la vie, tu as besoin d'être sous la garde du grand berger. Et moi, j'aimerais voir aujourd'hui les trois bienfaits d'être sous la garde du grand berger. Vous êtes là? Dites Zoé si vous êtes là. Zoé. Vous êtes là, c'est bon. Jean 10, 1 à 15, ça va comme suit. En vérité, je vous le dis, Jésus qui parle, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais elles ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie Zoé. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Verset 13, le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent tout comme le Père me connaît. Et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Une des métaphores qui est utilisé dans la Bible pour décrire la marche du croyant avec Dieu, c'est berger et brebis. Berger étant Dieu, brebis étant vous. Ok? Si à la personne à côté de toi, tu as une brebis. Ok? Et à la personne à ta droite, ben, non, c'est pas. faites pas ça. Ok? On est des brebis, OK? Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est une image que Jésus emploie. Et voici trois bienfaits d'être sous la garde du bon berger. Le premier, le berger te protège. Là où il y a des brebis, il y a nécessairement des prédateurs. Là où il y a une vie humaine, il y a un ennemi de notre âme qui veut du mal. Vous savez, à la tombée de la nuit, pour un berger, OK, du Moyen-Orient de l'époque de Jésus, il rassemblait les brebis dans un enclos afin de protéger des intempéries, des voleurs, des bêtes sauvages, car ils pouvaient être dans des grottes, des abris, encore des terrains entourés de murets, de palissades. Et le berger dormait à l'entrée, OK, de l'enclos pour protéger ses brebis. Imaginez, lorsqu'un brigand, il pouvait y avoir des voleurs, OK, il volait des moutons, OK, on est à une autre époque, là, peut-être on vole des voitures aujourd'hui, à l'époque des moutons, OK, vole des moutons, mais le berger est là pour protéger sa brebis. Moi, j'imagine quelqu'un qui essaie de rentrer chez moi par invasion à domicile, quelque chose, et tout de suite, t'entends quelque chose à la porte, puis je me mets devant mes enfants. Imaginez ça, essayez d'incorporer cette image-là dans votre cœur, dites, c'est Dieu qui fait ça pour vous, il vous protège. Il y a des loups qui essaient de manger les brebis, mais sans succès. Des fois, ils vont essayer de grimper les palissades autour, mais sans succès. Mais le loup passait pas par l'entrée principale. Le loup, moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Le loup avait peur du berger. C'est quelque chose, hein? C'était pas chose sûre. C'est pas le loup se disait pas, vas-y, on vient en meute, on attaque. Non, c'est comme, non, il va nous donner une volée, là. Tu comprends? Fait que le loup avait peur du berger. J'aimerais te dire que l'ennemi de ton âme a peur de Jésus. Le plus grand prédateur, ce n'est pas l'ennemi, c'est Jésus, mais il est de ton côté. Celui qui est le plus puissant, c'est Jésus. Mais il est de ton côté et il est là pour te protéger. Parce que dans la réalité, on se fait voler des choses. L'ennemi est là pour voler, égorger, détruire. Il veut voler ta paix. Il veut voler ta joie. Il veut voler même ta compréhension. Lorsque tu comprends les évangiles, lorsque tu comprends la parole, ça illumine ton esprit, ça t'amène ailleurs. Ça t'amène dans une profondeur. Il veut voler ton assurance. Il veut voler ton influence. Au travers de ton influence, Dieu utilise ton influence par l'esprit pour impacter le monde. Il veut voler ta crédibilité. Parce que lorsqu'il vole ta crédibilité, il t'enlève ta confiance. La confiance que tu as avec les gens. Encore une fois, une porte fermée pour que Dieu peut utiliser, un canal que Dieu peut utiliser pour impacter les gens autour de toi. Il veut voler ton sens de sécurité. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est que, est-ce que ma paix... Il veut voler ta pureté. Parce qu'il sait que quand tu fais des choix pour Dieu, tu veux marcher dans la pureté, tu as un dilemme moral. Des fois, à chaque fois qu'il vole ta pureté, c'est comme... Il y a des gens... Combien de fois j'ai vu des gens sombrer sur le poids de la culpabilité? Veut voler ta pureté. Veut voler l'espoir que tu as. Veut voler ta foi. Il attaque dans tes pensées, il attaque dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire qu'il y a un berger qui se nomme Jésus, qui se tient à la porte de l'enclos de tes pensées, à la porte de l'enclos de ton âme, qui est là pour te protéger. Est-ce que vous êtes réveillé ce matin? Je vais me craquer tout seul. Jésus n'est pas juste là pour donner la vie, il est là pour préserver la vie. Des fois, je suis des couples, je dis, c'est facile de faire des bébés, mais il faut en prendre soin. Jésus est là pour en prendre soin. Il est là pour prendre soin de toi. Je sais pas pour vous, mais pour moi, je suis confiant lorsque Jésus est à mes côtés. Je me dis, quand je comprends, quand je le saisis, des fois, je le saisis pas, mais quand je le saisis, je suis vraiment confiant. Et ça m'a fait penser à Georges Saint-Pierre. Est-ce que vous connaissez le gars de MMA, Georges Saint-Pierre? Est-ce que vous le connaissez? Il y en a qui sont comme, oui, c'est mon voisin. Non, c'est pas... Georges Saint-Pierre combat il fait des combats ultimes. Bon, là, il est à la retraite, c'est sûr, il est à la retraite. Mais il a fait des combats ultimes pendant longtemps, très bon, c'est le combat ultime, c'est très très féroce, OK? Il y a du sang, c'est hyper dangereux. Il y en a vous êtes comme je regarde pas ça, mais vous regardez les films de Quentin Tarantino, OK? Je sais. Et là il se bat et tout et même lui, même étant fort comme il est. OK, souvent ils appellent ça le tap out là, quand ils se battent à un moment donné, des fois il prend le gars par le cou, puis si la personne peut plus rien faire, ce qu'ils font c'est qu'ils tapent comme ça pour abandonner. Et pourquoi je pensais à lui alors que je préparais le message? Parce que je me suis dit, on sert un Dieu qui abandonne jamais. Il n'y a rien qui est plus fort que lui. Il n'y a rien, il n'y a aucune lutte, aucune épreuve, aucune chose. Même si tu sens que tu es à terre, même si tu sens que tu es suffoqué en ce moment dans ta situation, même si tu as l'impression que tu ne seras pas capable de te relever, je te garantis qu'avec Jésus, Jésus n'abandonne jamais. Amen. Il est là pour te protéger. C'est le plus grand, je le répète, des prédateurs, mais il est de ton côté. Vous savez, Jésus a dit quelque chose à ses disciples qui m'a un peu perturbé à un moment de ma vie. C'est face aux persécutions. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 10, 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. » Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Est-ce que ça encourage quelqu'un ce matin? Moi, ça m'encourage pas trop. Des brebis, tu sais, moi, je le traduis, je vous envoie vous faire massacrer, déchiqueter, manger, et vous allez saigner. Moi, c'est ça que je comprends. Quand je lis ce texte, j'aime le basket, puis j'imagine deux équipes. OK? Je me dis, je préfère me faire appeler les loups féroces que les petites brebis. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le truc avant le match, c'était comme le loup, on va les battre, on va les. Tu sais, on est les petites brebis, c'est comme, on dirait que tu vas pas. Mais pourquoi Jésus utilise cette image-là? C'est important. Jésus veut toujours nous faire comprendre quelque chose de plus profond, qui est important. Premièrement, tu es une brebis, ça veut dire tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Le loup, il y a un danger, il y a un ennemi qui est là, qui est féroce, qui est dangereux. La menace, elle est là, elle est réelle. Le loup, il y a une détermination, donc ça, c'est dangereux. Mais il veut nous faire comprendre que malgré ça, et c'était dans le contexte de persécution, malgré ça, je suis là avec vous et je suis puissant et souverain. Voici pourquoi c'est important. Si tu ne réalises pas que tu es une brebis, tu peux te prendre pour un loup. Et voici ce que je veux dire par là. C'est de faire face aux batailles tout seul. Tu fais face aux batailles dans ton âme, dans tes pensées. Tu dis, moi, je vais y arriver, je suis un loup. Mais vous savez, c'est quoi la meilleure tactique de l'ennemi de notre âme? C'est de t'isoler. Imagine, les brebis sont supposées être ensemble. Ce que vous faites aujourd'hui, vous n'avez aucune raison d'impact spirituel que ça. Tu penses que tu es venu à l'église juste pour, tu sais, touch check. Non. Le fait que tu vois du monde, il y a quelque chose qui se passe dans la louange, il y a l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui te parlent, ça te communique quelque chose, sont là pour t'encourager. Mais quand tu te prends pour un loup, ça veut dire, la personne dit, non, moi, je vis ça tout seul, je suis là chez moi, je regarde juste en ligne, je fais juste ça. Ouais, c'est parce que tu penses que tu es assez fort pour faire face aux attaques de l'ennemi. Qu'est-ce que les brebis font quand le berger n'est pas devant l'enclos? Ils sont déchiquetés. Il faut que tu saches que tu es une brebis, tu es vulnérable. Et aussi, je veux dire, il y a un loup, il est là, il est féroce, il rôde autour. Il y a des gens, des fois, ils se promènent dans leur vie spirituelle comme étant, j'appelle ça le syndrome du chaperon rouge. Tout va bien. Et sans conscience du réel danger, et moi je dis, non, attends, il y a un danger qui est réel. Faut prier, faut jeûner, faut se mettre avec des gens. Vous avez les groupes connexion, vous avez les soirées de prière. C'est pas genre, c'est une belle activité. Non, c'est, man, quelle, je vais aller à la soirée de prière parce que je vais me battre dans la prière. Parce que l'ennemi veut me voler moi, veut voler mes enfants, veut voler ma destinée, veut voler l'église. Je vais me tenir debout et je vais prier. Je réalise qu'il y a un loup et je me tiens debout. Mais heureusement, que nous avons un berger qui est là pour nous protéger. Et alors qu'on sait qu'il est plus puissant que toute attaque qui est formée contre nous, on peut être vigilant sans devenir anxieux. On peut être confiant face à la menace. On peut être en paix face au danger. On peut marcher la tête haute malgré l'intimidation. On peut avancer dans la vie avec assurance de la victoire. Le berger te protège. Le deuxième, le berger t'aime. Jésus dit qu'il est le bon berger parce qu'il y avait des faux bergers. Okay, c'est en contraste. Ézéchiel 34 décrit c'est quoi un faux berger. On n'aura pas le temps ce matin de lire tout ça, mais j'ai un petit résumé pour vous. Un faux berger, une personne qui abuse des gens égocentriques. Il profitait de la naïveté des gens. Il manipulait les gens. Il dirigeait avec dureté. Il se souciait juste de l'argent. Peu importe ce que les gens pouvaient vivre, ça les dérangeait pas. Mais Jésus se soucie des gens. Il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Jésus n'avait pas l'attitude d'un faux berger. Jésus n'avait pas l'attitude d'un professionnel. Jésus n'a jamais regardé à ses conditions de travail. En fait, Jésus, quand il a quitté le ciel, il a diminué ses conditions de travail. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas venu négocier le salaire. Il n'a pas fait des grèves. Il a dit non. Son seul souci est comment je peux prendre soin des brebis. Et il a été jusqu'à donner sa vie. Des fois, on le dit, si tu as grandi dans l'église, t'as habitué d'entendre ça, mais c'est fort. Quand quelqu'un se marie, on dit pour le meilleur et pour le... vous êtes encore réveillés, c'est bon. Mais combien de fois, dans le cadre du ministère pastoral, je vois des gens se quitter pour le moins pire? Même pas pour... Si on y a un spectrum, OK, de c'est pas grave à c'est vraiment grave, il y a des gens, des fois, ils quittent la personne, mais on est ici. Je suis comme si t'es même pas là. Puis je suis pas là pour juger, je suis pas là pour condamner. Mais je me dis, c'est une image pour moi. Jésus, il est là dans le pire des pires des pires. Il dit, dans le pire, je vais même donner ma vie pour vous. Ça témoigne de l'amour. Il dit, pour le meilleur et pour le pire. Et vous savez, son amour et sa bonté fait du bien à notre âme. Restaure. Vous savez, on a tous été je suis convaincu de ça, à un moment de notre vie, étaient blessés par un faux berger. Quand je dis faux berger, sortez du cadre de l'Église. Je parle pas juste d'un leader religieux. Je parle d'une personne qui devait être protégée, mais qui t'a fait du mal. Je parle de quelqu'un qui était supposé te guider dans la vérité, mais qui t'a guidé dans l'erreur. Je parle d'une personne qui était supposée être une personne de confiance, mais finalement, c'est quelqu'un de malhonnête. Je parle de quelqu'un qui était supposé être un modèle. Je parle de quelqu'un qui était supposé être un grand frère ou une grande sœur, mais finalement, est devenu ton ennemi. Je parle de quelqu'un qui était supposé être inspirant, mais qui te draine vers le bas. Quelqu'un que tu t'attendais à marcher dans ses pas, mais finalement, tu pensais que c'était un berger, mais c'est un loup. Et tu as été blessé, désabusé, tu as perdu confiance. J'aimerais te dire que Jésus est le bon berger. Et par son amour, non seulement il fait un contraste entre les mauvais et les bons bergers, mais par son amour et sa présence, il guérit les blessures des faux bergers qui ont été actifs dans ta vie. Amen. Le berger t'aime, et le dernier point ce matin, le berger te guide. Le berger te guide vers lui, et le berger te guide vers de verts pâturages. Le berger te guide vers lui, et le berger te guide vers des verts pâturages. Les verts pâturages dans la Bible, c'est l'endroit où ils peuvent manger, se dégourdir les jambes, profiter, prendre un verre, faire caca, toutes des bonnes choses, OK? Et on se dit comme, oh, c'est grossier. C'est une bénédiction pareille, OK? Les verts pâturages symbolisent dans la Bible tout ce dont les brebis ont besoin. OK, c'est ça que ça symbolise. Ultimement, fondamentalement, tout ce que les brebis ont besoin. Le vert pâturage, c'est tout ce dont on a besoin. Et je sais pas pour vous, moi en lisant, peut-être je suis naïf là, tu vois, je lis la Bible, je suis naïf, mais quand j'imagine un berger avec des brebis, j'imagine une personne d'un certain âge avec un bâton qui se promène avec des brebis sur de longues plaines. Tu sais, les plaines d'Abraham à Québec. Là, tu vois? Je sais pas, est-ce que je suis le seul? Non, OK, merci. Et j'imagine ça. Mais en fait, au Moyen-Orient de l'époque, c'est pas ça du tout. C'est que c'est aride. En fait, c'est un milieu très désertique. Il y a des crevasses, c'est rocailleux, c'est aride. Donc, le berger est super important. Il dit, aujourd'hui, je vais trouver des verts pâturages pour toi. Suis-moi. C'est comme, OK, on y va, on avance. OK, vers pâturage ici. OK, ouais, nice. Puis ça se peut que demain, il n'y en a plus parce qu'il n'est pas le seul berger, il n'est pas les seules brebis. Il doit les guider dans un milieu désertique, aride. Dieu est là pour te guider dans ta vie, pour être sûr que tu as ce dont tu as besoin. Vous savez, quelques mois en arrière, ma femme et moi, on a eu le privilège de faire un voyage juste nous deux sans les enfants. OK? Je viens de créer des problèmes dans les couples. T'as vu, chérie, on n'a jamais fait ça. Au Costa Rica, tous les deux, pendant 10 jours, on a visité 5 villes différentes, une voiture, c'était génial, vraiment amoureux à fond. Là, t'es dans un nuage. Là. On a laissé les enfants aux beaux-parents. On est là. Puis, vous savez, quand on vit des moments intenses comme ça, je sais pas pour vous, mais des fois, il y a des choses qui nous viennent à cœur. On est là, on a des bonnes discussions. Ma femme et moi, et on s'est dit, et si on adopterait? On pensait à l'adoption. Et on s'est dit, là, je regarde ma femme, je dis, ouais, on a 4 enfants. Je sais pas si quelqu'un serait prêt à adopter nos enfants. Je suis pas sûr. On a changé d'idée. Mais tout ça pour vous dire, c'était vraiment nice. On a décidé de garder nos enfants, c'est correct. Mais on a fait des excursions là-bas, c'était vraiment cool. On a visité un volcan, le volcan Arenal. Tous ceux qui sont... Est-ce qu'il y a du monde qui ont déjà allé au Costa Rica ici? Ouais, OK, ouais, quand même. Mais le volcan Arenal, c'est une des trucs touristiques. Et on voulait le visiter, mais là, on était loin du volcan. Et là, j'étais comme, man, j'aurais aimé ça, visiter le volcan et tout. Et là, après avoir parlé au guide touristique, il me dit, non, tu sais, c'est illégal, tu sais, t'as pas le droit d'aller sur le volcan et tout. Je dis, ah, zut, tu sais. Puis là, il me prend un peu à part, puis il fait, ben, pour 250 $ la nuit, à minuit, tu sais. Puis là, je suis comme, moi, super naïf, là, tu sais. Est-ce que c'est légal, tu sais? Je pense qu'il avait déjà clairement dit, mais bon, est-ce que c'est légal? Je veux juste l'entendre dire, tu sais, c'est vraiment, on est tellement pervers dans notre cœur, hein, on essaye de. Et là, il me dit, Non, mais tu sais, mais pour 200, il relance son truc. Et là, je dis non. Finalement, il me dit non parce que mais t'as déjà été? Il me dit oui, j'ai déjà été, j'y vais souvent. Il dit la dernière fois, j'ai emmené un policier, il a monté en haut, un policier en plus. est monté en haut avec sa copine et il a demandé en mariage sa copine. Et sa copine a dit non. Tu sais, moi, je suis comme... Oh. Je suis comme horrible. Je dis, est-ce qu'il a poussé dans la lave ou quoi? Il dit non. Et là, ils sont redescendus en bas. Mais voici pourquoi je vous parle de ça ce matin. Je me dis, quand vous allez dans un pays touristique, OK, vous allez visiter une forêt ou quoi que ce soit, les sentiers sont déjà définis. Il y a des escaliers, mais pas au volcan, parce que c'est illégal, ils n'ont pas fait un espace touristique. Mais malgré ça, le guide a réussi à les emmener en haut et en bas. Et je me suis dit, c'est une parfaite image de Jésus, ça. Jésus te guide dans des endroits où est-ce que toi, tu as l'impression que tu ne peux pas marcher. Toi, tu ne vois pas de sentier. Tu dis, je vois aucune idée comment monter cette montagne. Je vois pas comment je peux me sortir de ce trou-là. Et Jésus, il dit, je vais te guider dans cette impasse. Je vais te guider dans le lâcher-prise. Je vais te guider dans cette situation-là. Je suis l'ultime guide. Il n'y a aucune sphère, il n'y a aucune zone qui est interdite pour moi. Il n'y a aucune sphère qui me dépasse. Jésus peut te guider dans toutes les sphères de ta vie. Vous savez, une brebis... Elle peut être à côté de sa nourriture et ne pas savoir que c'est sa nourriture. C'est à ce point que la brebis est pas là. Okay? Mais tu as besoin que le berger fasse comme, OK, tu peux manger. OK, j'exagère, mais juste un petit peu. C'est vraiment à ce point-là. Et c'est, Jésus, son point, c'est pas de dénigrer les gens. Le but de Jésus, c'est pas de dire, vous êtes tombés. Non, c'est vous réalisez pas à quel point vous avez besoin de moi. Mais je me dis, mais c'est vrai. Je me promène pas le matin en me disant, ouais, il faut que Jésus me mette ça, tu sais, une cuillère dans. Non, mais il dit, tu peux être à côté de ce que tu as besoin, d'une personne dans ta vie, une connexion, une destinée, et ne pas le voir parce que le berger te guide pas. Parce que tu ne laisses pas la place au berger dans ta vie. Et tu es juste à côté. Tu es là ce matin et tu peux passer à côté du message. Parce que tu as besoin même du berger qui ouvre ton cœur au message. Tu as besoin de réaliser ce matin que tu as une brebis. Tu as besoin de dire, pas en ayant honte, mais avec certitude, Seigneur, je suis une brebis, j'ai tellement besoin de toi. Guide-moi. Une brebis peut être à côté de sa bergerie et ne pas le savoir. Je me suis dit, je poserai pas la question, parce que je pense qu'il y a personne qui va lever la main, mais je me suis déjà perdu à côté de chez nous. Mais je suis un humain, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais des fois, on est juste à côté. On a tellement besoin du berger. On peut se perdre pour différentes raisons. Les brebis se perdaient à cause de leur environnement géographique. Il y avait des crevasses. T'sais, le berger pouvait se promener avec la brebis, puis il y a une brebis qui glisse, puis il la voit pas. À cause de notre environnement, l'environnement géographique de la brebis, l'entêtement d'une brebis. Si la brebis prend une mauvaise direction, elle peut aller loin, très loin. À cause de l'entêtement, à cause de plein de choses. Et pour nous, comment je transfère, c'est des fois, c'est dû à des mauvaises fréquentations qu'on peut s'éloigner. Des fois, c'est à notre mauvais caractère, si on est honnête. On est comme, ouais, j'ai voulu un berger, mais moi, je veux faire ma vie pour moi-même maintenant. Je te confie juste une partie de ma vie. Tu sais, par esprit d'indépendance, par esprit parfois d'arrogance, par désobéissance, par frustration. Parfois, on se perd parce que on a vécu une épreuve dans notre vie et on a du mal à réconcilier la bonté de Dieu et l'épreuve qu'on a vécue. Et on finit par s'éloigner. Mais voici la bonne nouvelle ce matin. Peu importe où tu es dans ta vie, peu importe t'es perdu, peu importe t'es loin, au son de la voix du berger, tu peux retrouver ta voix. Au son de la voix du berger. Jésus a juste à parler. Je ne sais pas si tu entends la voix du berger dans ton cœur. Ce qui est vraiment, ce qui me touche beaucoup, c'est, puis j'ai invité les musiciens à revenir, ce qui me touche beaucoup, et vous allez comprendre, c'est que le berger reste proche de ses brebis. Okay? Il reste toujours proche de ses brebis. Et je me suis dit, c'est comme ça avec le Seigneur aussi. Mais là, dans ma tête, je réfléchissais, je priais là-dessus, mais c'est un peu paradoxal. Parce qu'on peut s'éloigner de Dieu. Mais Dieu reste proche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut une connexion avec nous. Puis l'image que j'avais, c'est une image négative, mais qui va... Je suis sûr que vous allez comprendre. Okay? Dans la Bible, Jésus même utilisait des images négatives pour parler du royaume de Dieu. Imaginez une fille qui laisse un homme jaloux, possessif. Elle dit, oh, je le laisse. Mais l'homme jaloux, possessif, la suit partout avec une cagoule, tu sais, avec un hoodie, puis partout. Fait que, est-ce que Dieu y harcèle? Non. Est-ce que Dieu veut te faire du mal? Non. Est-ce que, tu sais, c'est pas toutes ces caractéristiques-là négatives que je veux mettre à l'avant. Voici ce que je veux mettre à l'avant. C'est que du moment où est-ce que tu t'en vas dans une direction, si tu te retournes vers Dieu, Dieu est déjà là pour t'accueillir. Et c'est la seule image que je pouvais trouver pour vous l'expliquer le mieux possible. Parce qu'il dit, je suis proche de toi, je te laisse faire ta vie parce que je veux pas, je suis là, mais je suis pas là. Je veux pas t'offenser, je veux dire, le libre arbitre, c'est un choix de mon amour. Vas-y. Mais je le sais, la minute que tu fais comme, ah, j'ai besoin de Dieu, je vais être là, je vais être le premier à te prendre dans les bras. Parce que moi, c'est ça que je souhaite. Je suis pas là pour te condamner, je suis pas là pour te dire, ben, c'est ça, fais ton chemin. Non. Dès que tu te retournes vers Dieu, je sais pas où tu es. À quel point tu es loin de Dieu. Puis loin de Dieu, on l'interprète de différentes manières. Il y a du monde loin de Dieu. OK, mais je ne suis pas athée. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a des décisions que tu ne remets pas à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des épreuves que tu ne remets pas à Dieu? C'est être sous la garde du berger, c'est Seigneur, je te donne ma vie. Des fois, on donne la vie, puis après un moment donné, dans la vie, on reprend des choses. Je te prête quelque chose, mais là, je veux reprendre. Et c'est dire, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner. C'est le cœur d'une brebis qui dit, je ne veux pas m'éloigner. Je veux même pas être loin. Je veux même pas. Seigneur, je veux rester proche. C'est toi qui me guides dans les vers pâtureux. C'est toi qui me guides dans les besoins de ma vie. Mon cœur, mon souhait, c'est qu'on le réalise ce matin. C'est qu'on le réalise ce matin, qu'il y a un bon berger pour nous. Et si on décide de lui confier notre vie, à quel point notre vie peut être complètement différente. À qui confierais-tu ta vie ce matin? J'aimerais ça prier pour vous. J'aimerais ça qu'on penche les têtes, qu'on ferme les yeux. Je vais prier et je vais lancer une invitation. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'avance. Parce que c'est toi qui appelles chaque personne par leur nom. Tu sais comment rendre ça personnel ce matin. Donc simplement, Seigneur, je prie ce matin que tu puisses toucher les vies, Seigneur, que tu puisses faire réaliser aux personnes, à nous tous, notre besoin de toi et qu'on puisse réclamer tous les matins de dire, j'ai besoin qu'un berger me protège, j'ai besoin que Jésus me guide, j'ai besoin d'être touché par son amour encore une fois ce matin. Seigneur, fais ton œuvre ce matin. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, je vais inviter ceux qui disent, juste prie pour moi. C'est juste ça que je vous demande ce matin. Prie pour moi. Il y a quelque chose dans ce que tu as dit que je veux aller de l'avant, mais qui est difficile. Prie pour moi. Juste si c'est toi ce matin, il n'y a pas de miracle, quand je dis qu'il n'y a pas de miracle, c'est que c'est pas magique. C'est ça que je voulais dire. C'est pas magique de juste lever la main. Mais alors que tu fais un geste symbolique, Dieu fait un miracle dans ton cœur. Alors que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés, juste lève la main là où tu es, de manière symbolique. Je vois les mains qui se lèvent, plein de mains qui se lèvent, de dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que Dieu fasse quelque chose. Je veux, mais même moi, des fois, je m'entête par moi-même. Je laisse encore la chance quelqu'un lever la main ce matin. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains levées. Je prie que ton amour les submerge, que ta présence les submerge, Seigneur, aujourd'hui. Et qu'ils puissent pas quitter, Seigneur, ce lieu. Qu'ils ne quittent pas ce lieu en se disant, ça m'a peut-être fait quelque chose, mais il n'y a rien qui change dans ma semaine. Seigneur, accompagne-les cette semaine. Montre-les à quel point tu es bon pour eux. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir d'avance ce que Dieu va faire?